entretien. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens. Nous sommes dans les premiers siècles de notre ère, au tout début du 3e siècle, très exactement, dans une prison romaine, une femme chrétienne est sur le point d'accoucher. Image paradoxale, puisque alors que cette femme est sur le point de donner la vie, elle sait qu'elle va la perdre en martyr, dévorée par des bêtes. Son nom, nous le connaissons, est Félicité. Alors que, pendant l'accouchement, elle se met à crier et à exprimer toute la douleur qui est en elle, un geôlier s'approche et la raille. « Toi qui souffres ainsi maintenant, lui dit-il, que feras-tu quand tu seras exposé aux bêtes ?» Félicité lui répond « Maintenant, c'est moi qui souffre ce que je souffre, mais là-bas, il y aura quelqu'un d'autre en moi qui souffrira pour moi, parce que moi aussi, je vais souffrir pour lui. Cet autre, ce « lui », et bien évidemment le Christ lui-même, Félicité savait qu'elle allait en quelque sorte communier en donnant sa vie pour lui, pour sa foi. Storia Voce vous propose aujourd'hui de comprendre ces premiers chrétiens, de partir à la découverte de ces premiers chrétiens. Qui étaient-ils? Comment vivaient-ils? Quels sont les éléments qui ont favorisé leur essor et leur développement autour d'abord de la Méditerranée, puis au-delà? Comment, au fond, l'Église s'est-elle construite dans les premiers temps? C'est ce que nous allons voir avec Jean-Marie Salamito. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire du christianisme antique à Paris 4 Sorbonne, spécialiste de Saint-Augustin et auteur de nombreux ouvrages. Et si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour un double motif. Il y a d'abord quelques mois, vous avez dirigé dans la prestigieuse collection de la Pléiade, Gallimard, donc l'édition de textes intitulée sobrement « Premiers écrits chrétiens ». Un travail réalisé avec deux confrères, donc Bernard Poudron et Vincent Zarini. Mais je vous ai aussi invité parce que vous avez souhaité répondre au livre de Michel Onfray, donc depuis il y a eu un autre livre depuis Décadence, mais il s'agit bien de Décadence, donc vous avez répondu à ce livre Décadence dans un petit essai paru aux éditions Salvator, Michel Onfray au pays des mythes, réponse sur Jésus et le christianisme. C'est un essai dans lequel vous avez décortiqué, tel un entomologiste, les raccourcis, les affirmations hasardeuses, les anachronismes, les extraits sortis de leur contexte, d'un livre qui bien évidemment est un succès de librairie, parce que Michel Onfray est un succès de librairie, mais qui n'en reste pas moins très éloigné, comme nous allons le voir, des méthodes critiques de l'histoire et, disons-le tout bonnement, de l'honnêteté intellectuelle. Nous consacrerons une partie de cette émission à votre ouvrage qui me semble essentiel. Mais avant de commencer, avant de vous poser la première question, je dois dire à nos auditeurs que nous sommes dans un endroit spécial, sur une table elle-même toute spéciale. Est-ce que vous pourriez nous décrire l'endroit où nous nous trouvons et la table sur laquelle nous travaillons?
Oui, nous nous trouvons dans la Sorbonne, à dire vrai dans les combles de la Sorbonne, nous sommes sur les toits et nous donnons, si nous regardons bien par la lucarne, nous donnons sur la rue Saint-Jacques et le lycée Louis-le-Grand. Alors le bureau de bois, un vieux bureau de bois des années 1950 sur lequel nous sommes, a été celui d'un très grand savant qui a enseigné dans cette université, Henri Irénée Maroux, très illustre spécialiste du christianisme antique, mais également musicologue, également essayiste. Et c'est un bureau qui, il y a une douzaine d'années, risquait, lors d'un déménagement, de partir, d'être jeté pour que tout le mobilier soit renouvelé. Alors j'ai demandé qu'on me mette ce bureau dans mon petit lieu de travail des combles de la Sorbonne. Et c'est une espèce de relique, ce bureau sur lequel nous sommes en ce moment même appuyés.
Alors je crois crois que plusieurs livres d'Henri-René Maroux sont disponibles au Seuil, si mes souvenirs
nous
sont
avons,
bons.
Oui, nous avons beaucoup de livres d'Henri-René Maroux, en particulier ses grands classiques comme l'histoire de l'éducation dans l'Antiquité ou encore le traité de la connaissance historique sont en collection de poche, disons bon marché, aux éditions du Seuil dans la collection Point.
Alors, venons-en à la Pléiade et ma première question est une question que vous jugerez peut-être envieuse, mais comment aujourd'hui publie-t-on à la Pléiade ? Est-ce que vous pourriez nous raconter l'aventure de cet ouvrage ? Je rappelle, la Pléiade, c'est la collection peut-être la plus prestigieuse de France ce sont des ouvrages épais qui publient avant tout des textes de notre histoire et des textes de grands auteurs, et là, en l'occurrence, des textes des premiers chrétiens et donc des pères de l'Église.
Oui, je vous remercie Christophe de parler d'aventure, hein, parce que c'est bien le cas. Bon, cette aventure, c'est venue d'une très ancienne idée que j'avais personnellement de publier dans la Pléiade des grands textes chrétiens, comme les textes des Pères de l'Église. Or, il s'est trouvé que dans le courant de l'année 2007, en parlant avec mon collègue Bernard Pouderon, spécialiste de littérature grecque chrétienne, je me suis rendu compte que Bernard avait lui-même l'idée que nous pourrions faire un Pléiade. Et c'est à ce moment-là que nous avons décidé de nous associer. Nous avons ensuite contacté un de mes collègues de la Sorbonne, latiniste, Vincent Zarini, et nous avons monté un projet. Nous avons fait une description de ce que pouvait être un volume ou même plusieurs volumes, et nous avons écrit tout simplement chez Gallimard à Hugues Pradier, qui est responsable de la Pléiade. Alors notre grande chance, c'est d'avoir été écouté, c'est d'avoir pu mettre au point le projet dans un dialogue, pour que le projet soit quand même aux dimensions de la Pléiade, que ce ne soit pas quelque chose d'excessivement volumineux. Le volume tel qu'il se présente aujourd'hui fait environ 1650 pages, et nous avions prévu dès le départ un volume de 1600 pages. Donc vous voyez, nous sommes très proches de ce qui avait été prévu. Nous avons très tôt calibré les textes. Alors notre chance, vous avez raison de la souligner, notre chance c'est que en général, la bibliothèque de la Pléiade est faite de livres qui ont été commandés à des universitaires travaillant sur tel ou tel auteur. Et que dans notre cas, c'est nous-mêmes qui sommes allés solliciter Gallimard et qui avons été acceptés. Le projet a été officiellement lancé au début de l'année 2008. Et vous voyez que le volume a été publié en octobre 2016. Vous pouvez mesurer le temps que prend un volume de ce genre.
Ça veut dire qu'il y a eu des travaux de traduction que vous avez réalisés vous-même?
Oui.
Ou des travaux de compilation?
Il y a eu un travail entièrement nouveau. C'est-à-dire que le principe de la bibliothèque de la Pléiade, et ça me semble un excellent principe, c'est de ne pas reprendre des traductions anciennes déjà publiées ailleurs. Autrement dit, nous avons Bernard Pouderon, Vincent Zarini et moi-même rassemblé une vingtaine de collègues qui, chacun, ont pris en charge un ou deux des textes de cette époque, de ces deux premiers siècles chrétiens, de manière à faire la traduction, mais aussi l'introduction et les notes. Et comme cela, nous avons pu travailler en équipe de façon assez efficace parce que, il faut le dire, les auteurs, les collaborateurs du volume ont pris très au sérieux cette aventure et nous ont livré de bons travaux et dans les temps, nous sommes sortis en octobre 2016 comme ça avait été prévu en 2015. La dernière année a été très dure, mais nous avons respecté le calendrier. Et puis je dois le dire aussi parce que c'est la vérité et qu'en plus c'est une vérité agréable à dire, nous avons travaillé dans une très très bonne entente avec l'équipe de la Pléiade. Il faut savoir, je l'ignorais auparavant alors que je lisais des volumes de la Pléiade depuis très longtemps, il faut savoir qu'un volume de la Pléiade n'est pas seulement l'œuvre des auteurs dont il y a les noms à l'intérieur même des pages ou sur la couverture, mais que c'est un dialogue entre les spécialistes de tel ou tel auteur et puis des éditrices qui, chez Gallimard, assurent des corrections, des relectures extrêmement attentives, et Hugues Pradier lui-même qui nous relie, qui regarde, qui lit ce qu'il publie. Et je dois dire que notre travail d'universitaire, notre travail de spécialiste a beaucoup bénéficié de l'apport de l'équipe de chez Gallimard, de l'équipe de la Pléiade. Parce que, notamment, on nous a aidés à avoir des habitudes rédactionnelles, des choix d'édition, des choix de présentation plus adaptés à un public large, à un public élargi, au-delà du public des étudiants ou des collègues.
Alors, évidemment, les premiers chrétiens, cela signifie une limite chronologique particulière. Un de vos collègues, je ne sais plus si c'est Bernard Poudron ou l'autre auteur, parlait des pères de l'Église en disant que les pères de l'Église, au fond, c'est depuis les origines jusqu'au 8e siècle, si mes souvenirs sont bons.
Oui, ça dépend de la limite qu'on choisit. Hein. On peut souvent choisir des limites différentes.
Et donc, là, ce volume, quelles sont ses limites chronologiques?
Alors, les limites chronologiques, ce sont d'abord les débuts de la littérature chrétienne hors Nouveau Testament. Le Nouveau Testament était déjà dans la Pléiade et tout le monde peut se procurer différentes traductions du Nouveau Testament. Donc, nous avons commencé par le texte chrétien le plus ancien qui ne soit pas dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'épître de Clément de Rome aux Corinthiens. Une épître à ne pas confondre avec les épîtres de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Cette épître aux Corinthiens de Clément de Rome remonte aux années 90. Donc ça, c'est notre début. Fin du 1er siècle, et nous sommes allés jusque vers l'année 200, de manière à donner, grosso modo, le 1er siècle de production littéraire chrétienne, toujours hors Nouveau Testament, en plus du Nouveau Testament.
Alors, le temps, maintenant le lieu. Et c'est une chose que j'ai découverte en vous lisant dans votre introduction. Nous sommes dans un monde de ville ou bien dans un monde lié à la campagne?
Nous sommes essentiellement, vous avez raison de poser la question, mille fois raison, nous sommes essentiellement dans un monde urbain. Le christianisme primitif est essentiellement une réalité urbaine, c'est-à-dire que la mission chrétienne tout autour du bassin méditerranéen, à l'intérieur tout spécialement de l'Empire romain, a suivi le réseau des synagogues, dans les villes, et le christianisme est d'abord une religion de la ville. Simplement, il faut bien voir que la ville antique est beaucoup moins coupée de la campagne que ne le sont nos villes modernes. Il y a toujours une part de campagne dans la ville, il y a des champs, il y a des fermes éventuellement dans les villes, et puis on est très vite de la ville à la campagne.
Je le disais en introduction, nous sommes dans un monde essentiellement méditerranéen.
Oui, essentiellement méditerranéen. Alors nous remontons jusqu'à Lyon avec Irénée. Mais au fond, Lyon, c'est la ville qui, par le Rhône, est en contact avec la Méditerranée.
Alors, c'est un monde qui voyage. Et ça aussi, c'est une des leçons. C'est-à-dire qu'évidemment, aujourd'hui, avec les moyens à la fois de communication et de transport, nous passons d'un endroit à un autre en quelques heures. Mais nous vivons dans un monde, nous sommes dans un monde qui voyage aussi beaucoup.
Oui, nous sommes, il faut bien le voir, dans l'Empire romain. Autrement dit, dans une immense unité politique qui assure la paix. Il n'y a pas de conflit entre des États, entre des cités, entre des entités politiques différentes. Et c'est un empire qui assure également la sécurité, en particulier qui lutte dans la mesure du possible, contre la piraterie et le brigandage. Donc c'est un monde dans lequel les transports sont relativement plus sûrs qu'à d'autres époques, pour autant que peut-être sur la navigation dans l'Antiquité. C'est donc un monde où l'on voyage, et c'est un monde où la vie culturelle amène à voyager. Prenons un de nos auteurs, qui est un des grands auteurs chrétiens du IIe siècle, Justin. Justin appelé parfois Justin Martyr ou Justin de Rome. Il est appelé Justin de Rome parce qu'il a enseigné la philosophie et enseigné ensuite le christianisme à Rome. Et il a été martyrisé à Rome dans les années 160. Mais il est originaire de Néapolis, aujourd'hui Naplouse. C'est donc un Samaritain, hein, c'est un homme de la côte syro-palestinienne venu à Rome. Prenons des auteurs comme Tacien. Tacien est un Syrien venu en Occident, puis reparti en Orient. Nous avons donc des gens très souvent qui sont des voyageurs, et puis des gens qui ont communiqué avec d'autres communautés chrétiennes. Je donnais précédemment l'exemple de Clément de Rome. Clément de Rome écrit aux Corinthiens. Il est dans la communauté chrétienne de la capitale de l'Empire et il écrit à une ville grecque pour l'aider à résoudre des problèmes internes de discipline de la communauté chrétienne.
C'est-à-dire que c'est un monde qui communique.
C'est un monde qui communique énormément et c'est l'une des dimensions de la vie ecclésiale. C'est de communiquer d'une communauté à l'autre et notamment sous forme de lettres. Enfin, ce n'est pas du tout un hasard. Si dans le Nouveau Testament, il y a autant de lettres, bien sûr, nous pensons aux lettres de Paul, mais il y a aussi les autres lettres, les autres épîtres, celles de Pierre, par exemple, ou celles attribuées à Pierre. Et s'il y a ces lettres, c'est parce que la première littérature chrétienne, la première expression écrite du christianisme, c'est une littérature de communication entre communautés ou entre apôtres et communautés. Il y a une vie ecclésiale qui se joue à l'échelon local, dans chaque cité, mais qui se joue aussi dans l'échange avec d'autres communautés ou avec des missionnaires comme l'apôtre Paul.
Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est toujours dans votre introduction. Vous dites que les écrits donc, qui composent ce recueil n'ont pas seulement l'histoire pour cadre, mais ils l'ont aussi pour étoffe. Et ça appelle le livre sur Michel Onfray que vous avez écrit. Il y a un lien constant, ce sont des communautés, mais j'allais dire ce sont des communautés qui ne vivent pas en... auto-référencement, elles sont profondément liées, c'est-à-dire que transparaît de ces textes l'histoire tout simplement de la romanité.
Tout à fait. Ce qu'il y a d'important, je crois, dans cette toute première littérature chrétienne, c'est que c'est une littérature en communion, en union avec la vie. C'est une littérature qui est faite pour donner des instructions aux communautés. Par exemple, la Didaké, ce texte qu'on appelle la Didaké et qui donne des consignes sur la manière d'organiser et de faire vivre la communauté chrétienne, ce sont des lettres ou encore ce sont des récits de martyrs. Et pourquoi une communauté comme par exemple celle de Lyon écrit-elle à une autre communauté en racontant comment sont morts des chrétiens en martyr? Pourquoi? Pour rendre témoignage, pour avoir une mémoire communautaire dans laquelle les chrétiens peuvent puiser des exemples et des forces, des encouragements. Autrement dit, tous ces textes, alors y compris les textes d'apologie, c'est-à-dire de défense du christianisme, les textes qui discutent avec les juifs, les textes qui visent à convaincre les païens ou à défendre le christianisme auprès des païens, tous ces textes ont une visée pratique. Il faut soit permettre aux chrétiens de vivre en communauté, soit leur donner une mémoire, soit défendre la foi chrétienne face au monde extérieur et à l'hostilité des païens. Autrement dit, chacun des textes que nous avons dans ce volume a une fonction concrète, une fonction dans la vie.
C'est-à-dire qu'il y a une conjugaison du local et de l'église locale et de la vocation universelle du christianisme.
Tout à fait. Il y a la double conscience d'appartenir à l'église de Dieu de manière générale et d'appartenir à l'église de Dieu telle qu'elle se réalise concrètement autour de son évêque, comme on le voit avec les lettres d'Ignace d'Antioche, par exemple, où le sens est très fort à la fois d'une église universelle et d'une église locale qui est très concrètement, visiblement ordonnée autour de son évêque.
Alors, il y a un point aussi très important, parce que finalement, les premiers chrétiens, vous auriez pu appeler ça la première église, pour témoigner en quelque sorte de ce qu'est la première vie ecclésiale. Non, ce sont les premiers chrétiens, mais l'église est bien évidemment très présente, elle est très présente, elle se forme, et il y a un débat qu'on retrouve aussi dans un autre livre dont on parlera à la fin, Enrico Cattaneo, Les mystères dans l'Église ancienne, paru aux éditions du Cerf. Il y a à la fois, on a tendance à opposer le charisme et l'institution ecclésiale.
Oui, c'est un peu un lieu commun, vous avez raison de le mentionner. J'y ai fait allusion dans la partie que j'ai écrite moi-même de l'introduction du volume. Je crois personnellement qu'il faut faire attention à une sorte de cliché qui nous guette, c'est-à-dire de nous imaginer dans le christianisme des origines une espèce de spontanéité qui ressemblerait à celle d'une grève improvisée ou d'une assemblée générale d'étudiants.
Ou d'une élection présidentielle avec...
Enfin, l'élection présidentielle, c'est déjà plus structuré. Mais ce que je veux dire, c'est que la spontanéité, le jaillissement enthousiaste des débuts, que nous voyons très bien dans les Actes des apôtres. Pourquoi, au fond, des gens que nous appelons, nous, les premiers chrétiens, pourquoi partagent-ils leurs biens spontanément? Je crois que c'est par l'enthousiasme qui est le leur. Ils découvrent un message nouveau, ils sont entrés avec joie, avec ferveur, dans une vie nouvelle. Et je suis pas du tout surpris de leur comportement. Mais en même temps, cette vie nouvelle des chrétiens, dès l'origine et par la suite, à l'époque que nous étudions, disons, essentiellement le deuxième siècle, cette vie est organisée. On voit très bien à travers les Actes des apôtres que la première communauté de Jérusalem est structurée autour des apôtres et qu'il y a même, en plus des apôtres, des anciens. Il y a cette institution des sept que l'on appelle quelquefois un peu anachroniquement les diacres. Autrement dit, il y a une capacité à s'organiser, mais cette capacité à s'organiser ne signifie pas l'installation dans le monde ou encore le conformisme social. C'est l'organisation d'une communauté qui a à la fois son goût pour les charismes, son goût pour tout ce qui est spontané, et puis le sens d'un minimum de hiérarchie.
D'institution. On écarte le cliché de l'église des catacombes.
Ah, plus forte raison, encore plus. Alors oui, les catacombes ne sont que des cimetières, c'est-à-dire des lieux de sépulture. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot cimetière lui-même est un mot chrétien. En grec, il y a un mot qui est koimeterion, qui est de la famille de koimé. Koimé désigne le repos. Koimeterion, en grec classique, en grec avant les chrétiens, c'est un dortoir. C'est un lieu où l'on dort à plusieurs. Or, ce mot est utilisé par les chrétiens pour désigner leur première tombe ou les endroits où ils mettent leurs morts. Cela veut dire, et c'est très subversif, et c'est le message chrétien qui s'exprime ainsi, cela veut dire, nos morts sont endormis, ils attendent la résurrection. Quand nous prononçons le mot cimetière, qui vient bien sûr du latin, mais le mot latin lui-même vient du grec. En fait, quand nous prononçons le mot cimetière, nous utilisons un mot qui, à l'origine, pour les chrétiens, exprime à sa façon l'espérance de la résurrection. Ce n'est pas une nécropole, c'est pas une ville des morts, c'est un lieu de repos. Alors, les catacombes, le mot catacombe lui-même remontant seulement au 19e siècle. Les catacombes, ce sont des cimetières souterrains, particulièrement connu pour Rome, où il y a des dizaines de kilomètres de galeries souterraines, pour une raison très simple, c'est que il y a spéculation sur le terrain, il y a spéculation sur l'immobilier et sur les prix du sol, et du coup, il faut enterrer les morts sous la terre, il faut creuser. Or, l'Église a fait cela, l'Église de Rome a fait cela, certainement de manière communautaire, mais attention, les catacombes et tout leur réseau souterrain se développent à partir de l'extrême fin du second siècle ou du début du troisième siècle et sont particulièrement vivantes, sont particulièrement utilisées au quatrième et au cinquième siècle, donc à des époques plus tardives où le christianisme est autorisé. Il faut donc surtout pas imaginer des chrétiens se cachant dans les catacombes. Les catacombes ne sont pas des lieux de refuge. Pour se cacher, dans ce cas-là, soit on trouve des quartiers suffisamment populeux et complexes pour pouvoir s'y cacher, sinon on quitte la ville, on va se cacher à la campagne ou à la montagne.
Tout simplement. Il y a beaucoup de... Et ça ressort également de votre livre sur Onfray. Il y a beaucoup de bon sens, finalement. Nous avons des clichés sur l'histoire du christianisme, mais il y a beaucoup de réponses qui se trouvent tout simplement dans le bon sens.
Oui, dans le bon sens, puis dans le sens pratique, effectivement, oui. Quotidien. Il faut organiser.
Il fait
la
froid
vie
dans les catacombes. En
alors,
fait, sous le sol, il fait très très froid.
Et il fait très humide. Oui. N'oublions pas que le sous-sol de Rome, ce tuf bien connu dans lequel sont creusées les catacombes, c'est une roche qui est absolument saturée d'humidité. Oui. Et j'en ai fait l'expérience moi-même, puisque j'ai vécu à Rome et j'ai passé de très nombreuses heures dans les catacombes. On est comme imprégné d'humidité au bout de 2-3 heures dans une catacombe. On n'imagine pas y rester 2 jours.
Alors, il y a une autre idée, je me permets de donner quelques photographies comme cela, mais avec des idées bien particulières, c'est la notion de succession. Vous expliquez que l'idée de succession apparaît au IIe siècle, elle vient également après l'idée de tradition. Quand est-ce que l'on peut, au fond, parler de tradition? Est-ce qu'on parle de tradition immédiatement après le temps des apôtres?
On en parle très tôt, parce que le mot même tradition, en grec, paradosis, hein, c'est-à-dire ce que l'on donne à autrui, ce que l'on transmet, ce que l'on remet, le mot grec apparaît déjà chez saint Paul. Hein, donc c'est un des mots chrétiens les plus anciens. Alors, tradition, il faut bien voir que c'est, en grec, avec le mot paradosis, un nom d'action. Hein? C'est-à-dire que trop souvent, nous imaginons la tradition comme un état de fait, comme des choses. Or, la tradition, c'est le fait même, l'acte même de transmettre. Hein? C'est l'idée que le message que l'on a reçu, on le donne à son tour à autrui, qui encore à son tour le transmettra à d'autres personnes. C'est cela la tradition, c'est une espèce de relais à travers les générations. Et ça, les chrétiens en ont eu conscience. Quelqu'un qui est un magnifique théoricien de la tradition, c'est Irénée de Lyon, à l'extrême fin du IIe siècle. Nous avons un livre d'Irénée, du Contre les hérésies d'Irénée de Lyon dans ce volume. Notre évêque de Lyon, Irénée, a vraiment théorisé cette tradition. C'est-à-dire qu'il a bien vu que le christianisme, c'est toute une histoire d'envoi et de réception. Le Père envoie le Fils envoie ses apôtres. Rappelons-nous la parole, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et à leur tour, les apôtres choisissent des personnes qui vont être à la tête des communautés. Et il y a donc cette idée que le christianisme se transmet de personne à personne. Ce qui ressemble à deux choses à l'époque qui est la nôtre, à l'époque des débuts du christianisme. Ça ressemble à deux choses. Ça ressemble à la succession des philosophes à la tête des écoles philosophiques. On sait qui a été le successeur de Platon, qui a été le successeur du successeur de Platon, et ainsi de suite. Et puis, ça rappelle aussi les rabbins se succédant les uns aux autres. Un rabbin sait de qui il a été l'élève. Paul lui-même, l'apôtre Paul lui-même, sait très bien qu'il a été l'élève de Gamaliel. Donc, on a dans l'Antiquité la mémoire du maître dont on a été l'élève.
Et c'est propre au monde méditerranéen, au monde hellénistique, au monde judaïque, les deux ?
Pas forcément propre, parce que ce phénomène de lien entre maître et disciple se retrouve dans d'autres traditions, il se retrouve dans des religions beaucoup plus orientales. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les chrétiens, il est une réalité, et une réalité qui concorde avec ce qui se faisait dans le domaine de la philosophie et aussi dans le domaine de l'enseignement rabbinique.
Je vous ai transmis tradi vobis quod accepti, si
mes souvenirs sont bons, c'est Saint-Paul. Transmis ce que j'ai moi-même reçu. Ça, c'est exactement la définition de la tradition. Autrement dit, la tradition n'est pas une habitude, elle n'est pas un usage, elle n'est pas un conservatisme. Elle est l'idée qu'on ne s'est pas fait tout seul, qu'on a reçu un message, que ce message, on le garde précieusement et qu'on le transmet intact à autrui.
Alors, nous avons parlé de la paix comme une sorte de vecteur. S'il n'y avait pas eu de paix, peut-être que les choses eût été différentes, dans la mesure où le message aurait peut-être été transmis différemment, dans des conditions plus difficiles. Mais malgré tout, il y a cette paix, mais ces communautés chrétiennes sont en décalage avec le monde romain, parce que ils sont considérés comme des, non pas comme des parias, mais comme des hommes qui refusent le culte à l'empereur et des femmes qui refusent le culte à l'empereur, et d'où les persécutions. Les persécutions, on en parlait tout à l'heure, partie pleinement de cet essor, paradoxalement.
Oui, bien sûr, elles sont très liées à l'essor pour une raison très simple à laquelle nous ne pensons pas habituellement. Parce que quand nous parlons de cette époque, nous disons les chrétiens. Mais qu'est-ce qu'un chrétien à cette époque? Au tout début, c'est un juif qui estime être resté juif, puisqu'il reconnaît en Jésus le Messie annoncé par les prophètes d'Israël. Autrement dit, les premiers chrétiens, ceux que nous appelons les premiers chrétiens, n'ont pas du tout la sensation de faire partie d'une nouvelle religion. Ils estiment être une manière de vivre le judaïsme, et pour eux la bonne manière de le vivre. Mais à mesure que le nombre de chrétiens s'étend, il s'étend notamment parmi les païens. Et donc, au deuxième siècle, qu'est-ce le plus souvent qu'un chrétien ? C'est un ancien païen. Or, nous sommes dans une société de la tradition, où il est normal de garder la religion, en l'occurrence la religion polythéiste, que l'on a reçue de ses ancêtres. Autrement dit, déjà...
Et donc c'est une révolution.
Oui, c'est une révolution. Donc déjà, un chrétien est suspect. Parce que si le juif est juif comme ses pères, si le païen est païen comme ses pères, le chrétien en général c'est un converti. Donc quelqu'un qui a trahi la tradition reçue de ses pères. Et déjà ça c'est une position inconfortable pour les chrétiens. Alors en plus il y a le refus du culte des images, le refus du culte des idoles ou le refus du culte de l'empereur qui crée évidemment une difficulté extrêmement grave entre les chrétiens et les autorités impériales comme la population de l'Empire.
Alors, autre image, peut-être que nos auditeurs n'en ont pas conscience, ceux qui connaissent mal l'histoire du christianisme, nous avons effleuré le sujet tout à l'heure, nous sommes dans un monde judéo-chrétien, puis ensuite christiano-hellénistique.
Oui, nous avons en fait une sorte de très extraordinaire rupture qui s'est produite. Il faut en avoir conscience. Aujourd'hui, nous parlons de judaïsme et de christianisme, au fond, comme si ces deux catégories, si ces deux réalités avaient toujours existé. Et comme si Jésus était le fondateur d'une nouvelle religion. Alors, c'est ce qu'il est a posteriori, oui. Mais si nous prenons Jésus, comment a-t-il déployé son enseignement à l'intérieur du peuple d'Israël? Il a 12 disciples, comme il y a 12 tribus d'Israël. Et ainsi, il se présente en rassembleur d'Israël. Comme le Baptiste, qui est son prédécesseur, qui est le précurseur, comme le Baptiste, Jésus s'adresse aux Juifs, et non pas aux païens. Et c'est après Jésus, c'est la première communauté chrétienne qui est amenée à s'adresser aux païens, et d'abord à des païens qui sont des craignants Dieu, c'est-à-dire des païens attirés par le judaïsme, qui pratiquent un certain nombre des usages du judaïsme. C'est le cas de ce centurion Corneille ou Cornelius que Pierre baptise dans les Actes des Apôtres. C'est le moment, d'après les Actes des Apôtres, où Pierre découvre que les païens aussi, et pas seulement les juifs, ont part au salut en Jésus-Christ. Alors celui, évidemment, qui est, nous le savons tous, qui est l'homme de l'ouverture, qui est l'homme de la très grande ouverture vers les païens, c'est l'apôtre Paul, bien sûr. Et ça, il faut bien se rendre compte, c'est une révolution dans l'histoire, parce que cela veut dire que le peuple pour qui Jésus avait parlé, le peuple dont Jésus lui-même faisait partie, et les pères de l'Église n'ont jamais nié la judéité de Jésus, le peuple à qui Jésus a parlé, le peuple juif, a fourni les tout premiers chrétiens, les toutes premières générations chrétiennes. Les premiers chrétiens, bien évidemment, sont des juifs. Mais peu à peu, à mesure que le message chrétien était circonscrit, restait minoritaire dans le judaïsme, le christianisme, lui, a gagné du terrain du côté des païens. Autrement dit, petit à petit, la majorité chrétienne a été une majorité d'origine païenne et non plus une majorité d'origine juive, ce qui a contribué à, en quelque sorte, marginaliser, isoler un petit peu les chrétiens d'origine juive. Ce qui est effectivement un paradoxe parce que eux étaient les premiers et ceux qui avaient en commun avec Jésus lui-même le fait d'être juif.
Alors, autre image qui me semble importante, au même titre que la constitution institutionnelle, le développement de l'Église, c'est celle du dogme. J'ai enregistré une émission avec Olivier Hahn, le médiéviste, qui rappelait que le dogme, le sens du mot dogme, c'était l'opinion, en fait.
Oui, l'enseignement.
Voilà.
Oui.
Comment se constitue ce dogme? Parce que, lors de la cérémonie de l'Eucharistie, aujourd'hui, on récite le symbole de Nicée, le credo, qui date du XIVe siècle, du début du IVe siècle. Or, Donc il y a un décalage. Est-ce que ce credo est applicable au premier siècle? Est-ce que ce qui est défini dans les lettres au début du IVe siècle est dans les esprits au premier siècle?
Il commence à y être, bien sûr, toute proportion gardée. Mais si vous feuilletez le volume Premiers écrits chrétiens, vous verrez qu'il y a quelques formules de profession de foi, c'est-à-dire des résumés de la foi chrétienne. Il faut bien voir que le message chrétien, dès l'origine, est un message qui peut se résumer en une proclamation essentielle, en un noyau dur. C'est ce que nous avons. Si nous lisons les différents discours de l'apôtre Pierre qui se trouvent au début des Actes des Apôtres, chacun de nous peut prendre le livre des Actes des Apôtres, lire et relire les discours de Pierre dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres, à commencer par le discours de Pierre au jour de la Pentecôte. Or, ce que l'on peut voir, c'est que ces différents discours correspondent tous au même schéma, c'est-à-dire Jésus est venu, il a été baptisé par le Baptiste, il a prêché, il a fait des miracles, il a été crucifié, il est ressuscité, il a envoyé l'Esprit. Vous avez là tout un noyau chrétien, de proclamation chrétienne, ce qu'on appelle le kérigme, hein, le mot grec kérigma.
Le message chrétien.
Voilà, c'est le message chrétien essentiel, le kérigme, c'est-à-dire la proclamation essentielle. Hein, Jésus est venu, il est mort et ressuscité, et c'est lui qui nous sauve. C'est en lui que nous avons le pardon des péchés. Eh bien, cela, c'est présent dans les toutes premières générations chrétiennes, et puis ça a été développé au-delà, et comme vous le dites, par exemple, dans le symbole du Concile de Nicée en 325. Mmh. Mais ce qui se passe à Nicée, ce n'est pas un commencement, c'est plutôt un développement d'idées qui existaient déjà. Mmh.
Alors peut-être un dernier mot donc sur ce volume de la Pléiade, les premiers chrétiens, c'est Vincent Zarini qui en parle. Il existe une esthétique littéraire?
Oui, alors ça intéresse beaucoup Vincent Zarini, qui est un professeur de langue et littérature latine et qui est attaché à l'histoire des genres littéraires, à l'esthétique. Oui, il y a une beauté de ces textes. Vincent a eu raison d'en parler. Il y a une beauté de ces textes chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on imagine guère, dans l'Antiquité, d'écrire un texte qui ne soit pas beau. Parce que ces écrivains chrétiens ont été formés à la rhétorique, c'est-à-dire à l'art de parler et d'écrire de l'Antiquité gréco-romaine, et donc ils recherchent des qualités formelles. Et c'est ainsi que notre volume n'est pas seulement un document historique, n'est pas seulement un volume qui peut servir à faire l'histoire des idées, il est aussi un morceau de littérature.
Alors passons, si vous le voulez bien, Jean-Marie, à votre deuxième ouvrage, donc Monsieur Onfray au pays des mythes, réponse sur Jésus et le christianisme, paru chez Salvator. Mais au fond, tout ce que nous avons évoqué pour le moment répond en grande partie au mythe Onfray et à ce qu'il a présenté dans son livre Décadence. La première chose que j'ai envie de dire, Jean-Marie, c'est ce livre, il n'est pas venu de vous, il est venu de vos étudiants. Et j'avoue que voir des étudiants ou imaginer des étudiants, vos propres étudiants, ça montre qu'il y a un lien entre vous et votre et vos étudiants, frapper à votre porte et vous dire « il faut répondre à Onfray » est une idée que j'apprécie beaucoup.
Et c'est très intéressant comme réalité. C'est vrai que mon métier m'amène à essayer d'être à l'écoute des étudiants. Les étudiants ne sont pas des personnes à qui on peut ressortir exactement la même chose en matière d'enseignement d'année en année. Donc, il y a un contact, il y a un dialogue. En plus, un cours sur le christianisme comme celui que j'ai la chance de pouvoir faire à la Sorbonne, ça interroge, ça suscite des réactions, ça me vaut des questions après les cours, ça me vaut quelquefois des échanges de mails avec les étudiants, et c'est vrai que des étudiantes et des étudiants m'ont encouragé à faire ce livre en me disant qu'ils avaient été choqués, notamment par des interventions de Michel Onfray lors d'émissions télévisées, et en particulier par ce fait que des journalistes en face de Michel Onfray, au lieu de le contredire sur des points comme la question de l'existence historique de Jésus, acquiesçaient, souriaient et semblaient trouver que Michel Onfray disait des choses très intéressantes et très originales. Et cela, c'était tout simplement un effet d'ignorance. Alors ces jeunes qui apprennent, Ces jeunes qui se cultivent ont réagi avec toute leur sensibilité au fait que des ignorances s'étalaient dans les médias.
Alors, il y a une forme de... Je vais lâcher le mot, mais de supercherie. C'est que il cite beaucoup de personnages que tout le monde a oublié, que le grand public ne connaît absolument pas, ce qui donne une forme de technicité à son propos, mais il choisit ce qu'il veut bien choisir.
Oui, tout à fait. Vous avez raison. Je dirais qu'il y a une très grande habileté qui consiste déjà, avec décadence, à faire un très gros bouquin. Parce qu'un bouquin très épais, il doit y avoir un peu plus de 650 pages, ça impressionne. Vous avez des gens, enfin vous le savez aussi bien que moi Christophe, vous avez des gens qui comptent les pages des bouquins, qui regardent leur épaisseur, qui pensent au poids du papier avant de penser au concept, avant de penser au contenu. Et donc ça impressionne d'avoir les 650 pages de décadence en face de soi ou dans la main. Alors en plus, dans décadence, il y a, comme pour des ouvrages universitaires, il y a un index des noms à la fin, ce qui permet de se rendre compte de l'extraordinaire quantité de noms propres et aussi d'avoir l'impression que c'est un ouvrage scientifique. Alors ce qui est amusant, c'est que pour l'Antiquité chrétienne, il y a des noms qui n'y sont pas alors qu'ils sont dans le texte, ou alors il y a des personnages qui sont dédoublés, dont le nom est donné sous deux formes différentes, et du coup, ça fait deux personnages différents au lieu d'un dans l'index.
Alors que ce sont les mêmes personnages. Alors vous n'avez pas voulu faire un pamphlet, Jean-Marie.
Non, pas de la polémique.
Vous n'avez pas voulu faire de la polémique. Vous ne vous êtes prononcé que sur votre domaine de prédilection, à savoir le christianisme antique.
Oui, j'ai voulu rester sur mon domaine, sur le domaine que j'ignore le moins, sur lequel j'ai le moins de risques de dire de bêtises, parce que ce que j'ai voulu proposer au lecteur, c'est une mise au point. Hein, la plupart de mes pages disent au lecteur, voilà ce que Michel Onfray raconte, ce n'est pas vrai, et voilà ce que vous pouvez penser, voilà les sources, vous pouvez vous faire votre propre idée. Je crois que ce qui est très important, c'est d'avoir le goût de la vérité. Hein, c'est mon métier d'enseignant-chercheur, essayer de chercher des vérités, et puis de les propager, ça c'est la partie enseignement. Or, ce qui m'a vraiment gêné, ce qui m'a même choqué dans le livre de Michel Onfray, c'est que cet homme dont les qualités intellectuelles sont évidentes, dont la personnalité intellectuelle est très réelle, dont le talent ne peut pas être nié, c'est que Michel Onfray se soit abaissé, en quelque sorte, à écrire quantité d'affirmations qui sont fausses, à se tromper sur des noms propres, à accuser des personnages d'avoir fait des choses qu'ils n'ont jamais faites. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que je vois beaucoup de gens, y compris des chrétiens pratiquants, qui lisent Onfray et qui croient qu'ils vont apprendre quelque chose sur leur propre tradition, sur leur propre religion. Et ça, c'est, à mes yeux, extrêmement grave.
Alors, est-ce que Onfray... finalement ne recycle pas toutes les... Parce que l'historiographie est récente, vous en présentez un peu un historique, hein. Je crois que c'est à partir du XVIIe siècle qu'on commence à étudier.
Oui, XVIIIe, voilà. XVIIIe.
Et est-ce qu'on recycle pas au fond toutes les vieilles idées du XIXe siècle, anticléricales, Renan, voilà, Jésus, cet homme formidable, mais bon, avec une sorte de nouveauté, on le verra, Jésus est vu comme un concept et non pas vraiment comme un homme qui mange, qui boit. Est-ce que c'est pas un recyclage du XIXe siècle?
Alors ça l'est en partie, mais si vous voulez, Christophe, j'ai pas voulu trop comparer Onfray à ses prédécesseurs, parce que je pensais que les lecteurs ne connaîtraient pas de toute façon ses prédécesseurs et qu'il fallait travailler en toute priorité sur ce qu'Onfray avait écrit lui-même. Mais c'est vrai qu'Onfray reprend un certain nombre de clichés, il a aussi des idées personnelles, par exemple, il a manifestement consulté les écrits apocryphes chrétiens de la bibliothèque de la Pléiade. Il cite abondamment des textes apocryphes pour lesquels il a eu recours aux traductions assez récentes de volumes de la Pléiade qui ont précédé le nôtre. Donc, il y a à la fois de l'ancien, si j'ose dire, et du nouveau chez Michel Onfray. Ce que j'ai voulu surtout prendre en compte, c'est vraiment ce qu'il écrit, sans supposer chez le lecteur toute une histoire de la provenance des idées de Michel Onfray. Parce que ça, ce serait devenu plus compliqué, peut-être un peu lassant aussi.
Mmh. Alors, votre livre, bien évidemment, est bourré de références. Ce que je disais en introduction, tel un entomologiste, vous reprenez les différentes affirmations d'Onfray, vous les décortiquez et vous les passez à l'aune de la critique historique. Une affirmation, page 111, Jésus est un concept qui ne mange que du symbole. Il veut faire une sorte de Jésus un personnage désincarné. Et tout à l'heure, nous disions que il y a bien une histoire, les premiers chrétiens, hein, c'est l'étoffe de l'histoire dont vous parliez tout à l'heure, dont vous parlez dans votre introduction des premiers chrétiens, et donc déjà cette idée, c'est pas une notion, c'est pas un concept, c'est une réalité, c'est un homme que l'on situe en son temps et pour lequel nous avons des références. On a enregistré une émission avec Codex, donc la fameuse revue Codex, qui, hasard du calendrier, a consacré son numéro à la Passion du Christ, et la Passion du Christ correspond à un supplice romain qui était infligé à une certaine catégorie de population, etc. Donc c'est un homme que vous incarnez, à la différence de Michel Onfray.
Oui, mais je n'ai aucun mal à incarner Jésus, parce que j'ai fait une chose extrêmement simple, c'est enfantin, j'ai tout simplement relu les évangiles. C'est-à-dire que quand Michel Onfray dit « Jésus n'a pas de corps, Jésus ne mange pas, il ne mange que du symbole, sa nourriture est purement symbolique, Jésus n'a pas d'émotion, Jésus n'a pas de passion », j'ai fait une chose très simple, j'ai repris les quatre évangiles, je les ai entièrement relus en notant tous les passages où il était question du corps de Jésus, de partie du corps de Jésus, sa tête, ses mains, ses pieds, son visage, ou encore tous
ses
les
émotions.
Passages, les émotions de Jésus, quand par exemple il est ému par la tombe de son ami Lazare, j'ai pris aussi tous les passages où il est question de nourriture, où il est question de Jésus qui mange, qui boit, ou bien les passages où Jésus lui-même parle de nourriture. Et c'est là que j'ai rappelé des choses évidentes. Il y a une jeune journaliste pour un journal de la presse écrite qui m'a interviewé il y a quelque temps et qui m'a dit « Vous avez renouvelé mon regard sur Jésus dans les évangiles parce que vous avez trouvé des tas de choses. » Mais je lui dis « Ce que j'ai trouvé, n'importe qui aurait pu le trouver, puisque je n'ai fait que regarder les textes. » Et là, je tiens beaucoup à cette leçon d'histoire. Si nous voulons faire de l'histoire, nous devons bien lire les sources. Et ce qui m'a fait vraiment beaucoup de peine, dirais-je, parce que c'est dommage de voir quelqu'un qui se trompe, ça ne fait pas du tout plaisir, que Michel Onfray n'ait pas bien lu les textes, qu'il ne les ait pas lus avec l'attention un peu humble, un petit peu empathique de l'intellectuel qui suit les lignes les unes après les autres et qui trouve dans les textes ce qui y est et non pas ce qui n'y est pas.
Autre personnage, nous en parlions tout à l'heure, c'est Saint Paul. Et Saint Paul est alors caricaturé à un point, mais on en rit parce que il en fait une sorte de personnage complètement névrosé. Or aujourd'hui même, il se trouve que en arrivant à la Sorbonne, j'ai écouté la radio sur France Info, Le Monde des Religions, un magazine comme Le Monde des Religions réhabilite aujourd'hui Saint Paul et dit qu'il serait, que par exemple son soi-disant problème avec les femmes, est non pas un mythe, mais qu'il y a en tout, que les choses sont bien plus complexes qu'on ne le croit.
Bien évidemment. Alors, vous avez parfaitement raison, Christophe, de penser à ce personnage de Paul. Paul, effectivement, est présenté comme un personnage entièrement négatif. Ça, c'est difficile à croire pour les lecteurs qui n'auront pas regardé Décadence. Je demande une chose à celles et ceux qui nous écoutent, c'est de feuilleter Décadence, de feuilleter mon petit livre aussi et de faire la comparaison. Rien de ce que je dis n'est pas dans Décadence. Hein. Je n'attribue jamais à Michel Onfray quelque chose qu'il n'a pas dit. Il y a même des gens qui ont lu mon livre avant de se mettre à lire Décadence et qui m'ont dit « Décadence, c'est presque encore pire que ce que vous dites dans votre livre ». Donc, je n'ai pas du tout exagéré. Or, c'est vrai, vous avez parfaitement raison de le dire. Sur Saint Paul, Michel Onfray est d'une agressivité, d'un pessimisme, d'une noirceur extraordinaire. Parce qu'il fait de Paul un névrosé, Il prétend que Paul est impuissant à des problèmes sexuels alors qu'il n'en sait rien, que je n'en sais rien non plus d'ailleurs, qu'il n'y a aucune raison de le penser. Il s'imagine que Paul est violent et qu'il a converti les gens au christianisme par la force, ce qui est absolument faux. Il s'imagine aussi que Paul détestait les intellectuels, alors que Paul est lui-même un intellectuel, un juif cultivé, que lui-même s'est intéressé à la philosophie, il lui arrive de citer des concepts philosophiques, et il a parlé aux philosophes athéniens. Donc, sur Paul, on est vraiment dans la désinformation.
Alors, dernière image, Jean-Marie Salamito, et c'est une image... que je n'avais pas vu personnellement, alors que je pense travailler sur l'histoire de l'Église depuis pas mal de temps, mais c'est une évidence, c'est-à-dire qu'il y a des choses évidentes comme ça que l'on découvre, qui sont là, mais on ne les voit pas dans le tableau. Ce sont les conciles, et cela pose toute la question de la relation entre la foi et la raison. Je renvoie nos auditeurs à l'émission enregistrée avec Sébastien Morlet sur les chrétiens et la culture, qui est très importante et qui est aussi prégnante hein, dans le livre les premiers chrétiens. Les conciles sont des moments d'intelligence, c'est-à-dire que ce sont des moments où l'on réfléchit, ce qui montre que au fond la religion catholique, contrairement à ce que disent beaucoup, n'est pas une religion du livre, c'est une religion de la parole.
Oui, je suis très heureux que vous souleviez ce problème. Le christianisme n'est pas une religion du livre. Le livre n'est pas hypostasié, n'est pas divinisé. Le christianisme est une religion d'un message qui se transmet avant tout de personne à personne et qui suppose une réflexion. Alors là, qu'avons-nous en face de nous ? Nous avons un immense cliché qui nous a été inculqué à toutes et tous pendant des générations. C'est très typique de l'enseignement donné par la Troisième République. C'est l'idée que les religions sont du côté de l'obscurantisme, de l'ignorance, alors que la pensée sans Dieu serait la seule pensée libre et la seule forme d'intelligence. Or, en réalité, et ça, un très grand sociologue des religions comme Max Weber le savait très bien, une religion, et à plus forte raison le christianisme, suppose une certaine dose de réflexion, une certaine dose de rationalité, une certaine dose de raisonnement. Et comme vous l'avez dit, eh bien, les conciles sont ce moment-là. En 325, quand environ 300 évêques sont rassemblés à Nicée pour réfléchir sur la différence qui peut exister entre le Père et le Fils dans la Trinité. Eh bien, ces évêques, souvent, sont des hommes cultivés, qui ont réfléchi, qui ont des idées théologiques, mais en plus, dans bien des cas, ils sont accompagnés par des personnages qui ne sont pas nécessairement des membres du clergé, mais qui sont des philosophes, des logiciens, des théologiens, bref, des intellectuels, des gens qui leur apportent du concept. Un concile, ça suppose énormément de réflexion. Il y a eu des experts auprès des évêques au Concile Vatican II. Eh bien, il y avait des experts aussi auprès de certains évêques au Concile de Nicée en 325.
Jean-Marie Salamito, nous arrivons au terme de cette émission. Nous l'enregistrons fin juin 2017. Vous avez eu un contact avec Michel Onfray. Il a tenté de vous parler. Il a, on sait qu'il débat dans les différentes revues avec des politiques, des intellectuels, etc. Il a cherché ce contact avec vous ?
Non, pas du tout. Ce que je puis dire au jour d'aujourd'hui, c'est que j'ai bien évidemment envoyé mon livre avec une dédicace que j'ai voulu cordiale, respectueuse.
Parce que vous n'êtes pas du tout agressif.
Non, je n'ai pas voulu du tout être agressif. D'ailleurs, je n'éprouve aucune hostilité à Michel Onfray. Michel Onfray ne m'est absolument pas antipathique. Je suis désolé qu'il ait écrit ce qu'il a écrit dans des cadences sur le christianisme, mais sa personne ne provoque en moi aucune opposition, aucune agressivité. Non, je l'ai ainsi, par l'intermédiaire de l'éditeur qui lui a envoyé mon livre, je lui ai en quelque sorte envoyé un message. J'ai même accepté auprès d'un libraire de Caen le principe de débattre avec Michel Onfray. J'ai donné un accord de principe, mais Michel Onfray n'avait pas encore été consulté. À l'heure actuelle, je n'ai pas de nouvelles, et puis nous verrons bien. Je le dis en toute sérénité.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Marie Salamito. Donc, Monsieur Onfray, au pays des mythes, réponse sur Jésus et le christianisme, et les premiers chrétiens dans la collection La Pléiade. Et je souhaite citer deux ouvrages. Un premier, j'en ai déjà parlé au cours de l'émission, Enrico Cattaneo, Les mystères dans l'Église, les ministères, pardon, dans l'Église ancienne, aux éditions du Cerf. Vous connaissez Enrico Cattaneo ?
Oui, tout à fait. C'est un excellent spécialiste de christianisme antique, un très grand savant italien, et son ouvrage est fondamental. C'est une merveille que d'avoir enfin une traduction française de ce gros ouvrage qui va rendre énormément de services pendant de longues années.
Alors, il y a une très très longue introduction qui présente les différents ministères, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évêques, les presbytres, les diacres. Il y a notamment abordé la fameuse question des diaconesses dont le pape François a souhaité parler. Et après, dans différentes parties, ce sont les textes qui présentent ce qu'est l'Église dès les premiers temps.
Tout à fait. C'est un recueil de textes d'époque traduit. Alors en plus, il faut souligner que le travail de l'édition française a été fait par quelqu'un de très compétent sur les pères de l'Église, qui est Agnès Bastide, et que en plus, le père Cattaneo a mis à jour la bibliographie spécialement pour l'édition française, qui donc est plus à la page encore que l'édition italienne.
Et alors un autre ouvrage pour montrer justement l'incarnation du Christ, le fait que le Christ était bien un homme. Donc c'est une nouvelle collection qui existe depuis plusieurs mois. Je crois qu'il y a trois titres. Nous consacrerons une émission tout particulièrement à cette collection parce que je la trouve très originale. Cela s'appelle Biographie gourmande chez Payot, c'est le nom de la collection. Et donc chaque titre est consacré à un personnage. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de Jésus de Nazareth, donc Daniel Bourgeois, Jésus de Nazareth dans la collection Biographie gourmande de Payot, qui reprend et développe finalement le travail que vous présentiez tout à l'heure, qui était de reprendre dans l'Évangile tous les moments où on parle de repas, où on parle de poisson, où on reparle de faim, puisque il y a ce fameux moment dans le désert, le moment de la tentation. Donc il y a d'autres biographies gourmandes. Je crois qu'il y a Churchill et un Napoléon qui va également sortir. Nous ferons une émission très prochainement. Donc Daniel Bourgeois, Jésus de Nazareth, biographie gourmande chez Payot.
Un livre à envoyer à Michel Onfray.
Merci beaucoup Jean-Marie Salamito.
Merci à vous Christophe.
Et je remercie nos auditeurs pour leur fidélité et je leur dis à très bientôt pour un nouveau numéro des grands entretiens de Storia Voce.